Des élèves de l'école de la deuxième chance de Lille sont allés à la rencontre de femmes et d'hommes qui résident dans une maison de retraite du quartier d'Oisem. Quels souvenirs ces personnes âgées, maintenant, ont-elles de leur jeunesse? Quelle place les femmes occupaient-elles à cette époque dans la famille, la société, l'entreprise? Quel message laissent-elles pour les nouvelles générations? Genre de métier, métier de genre, paroles croisées, une initiative du CORIF, collectif régional pour l'information et la formation des femmes, avec la participation des stagiaires de l'école de la deuxième chance de Lille, Anissa, Manon, Alexandre, Leïla, Ingrid, Ziane, Hayat, Jordan et Mélanie, et bien sûr les résidents de la résidence d'automne de Lille. Voilà, vous allez vivre avec nous cette aventure de l'atelier de pratique langagière organisé avec le soutien de l'ACCÉ. Bonne écoute de Radio Campus 106.6 FM. Voilà, première chose, nous allons présenter tout à l'heure le bilan avec donc les responsables qui sont Soura, qui est formatrice à l'école de la deuxième chance, et Alia, chargée de ce projet et des projets formation CORIF. Mais tout d'abord, avec Mélanie, nous allons présenter un petit peu ce qu'est l'école de la deuxième chance. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Alors, l'école de la deuxième chance, vous y êtes depuis combien de temps?
Depuis le 29 avril 2014.
Voilà, donc l'idée de cette école, c'est de vous amener à quoi?
Donc en fait, c'est un dispositif qui donne aux jeunes de 18 à 25 ans sans diplôme une seconde chance en fait de trouver un emploi ou une formation qualifiante au biais en fait de stages en entreprise et un suivi individuel. Ça m'a aidé en fait à reprendre de confiance en moi, car avant de rentrer à l'EDC, j'étais sans diplôme et vraiment désespérée.
Voilà, vous comptez quitter l'établissement quand pour vous?
Moi, ça serait fin août, car en septembre, en fait, j'intègre une formation qualifiante.
Voilà. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est que les jeunes qui sont là-bas ont entre 18 et 25 ans, c'est ça, hein,
pour... Oui, c'est ça.
Et qu'ils peuvent sortir dès qu'on leur propose un emploi.
Voilà, c'est ça, en fait. La formation propose, en fait, une période de 9 mois. Mais bien sûr, les élèves peuvent partir. Nous, on a une stagiaire qui est partie au bout de même pas un mois, Fanny, car elle a trouvé un emploi en tant que peintre en bâtiment. Mmh. Donc voilà.
Donc le but, c'est bien sûr trouver un emploi, mais c'est aussi de vivre des expériences.
Quand on va en entreprise, on rencontre des professionnels qui sont passés aussi par là, comme nous, sans diplôme ou avec des diplômes au lycée. Et voilà, nous explique que aujourd'hui ils mettent en place la région, même le Nord-Pas-de-Calais mettent en place des dispositifs en fait pour les jeunes. Et donc ça nous permet de faire des stages, voir dans les entreprises comment ça se passe et trouver quelque chose à la clé.
Ingrid, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous allez nous présenter ce qu'est le CORIF, C-O-R-I-F.
Oui, donc le CORIF, c'est une association lilloise qui existe depuis les années 80 et qui travaille sur l'égalité entre les femmes et les hommes sur le plan professionnel.
Donc, effectivement, vous, en tant que femme, vous sentez concernée par cette association et le fait qu'elle
intervienne. Oui, je pense que c'est important qu'il y a des gens comme Alia qui défendent l'égalité entre les femmes et les hommes, surtout au travail. Donc, je pense que c'est important de nos jours.
On aura l'occasion d'entendre vos propos tout au long du sujet qu'on a réalisé, hein, qu'on va diffuser tout à l'heure, et de faire le bilan aussi, bien sûr, avec Alia et Soura tout à l'heure. On va présenter maintenant le projet, donc, qui a été l'objet de ce reportage que vous allez l'entendre, un reportage d'une bonne quinzaine de minutes, et peut-être on pourrait demander s'ils se rapprochent du micro à Jordan et Alexandre de le faire ensemble. Donc l'idée au départ, c'était d'aller où pour faire quoi?
Dans une maison de retraite à Oisem.
Oui.
Et en fait on devait rencontrer des personnes âgées pour parler d'eux sur leur parcours de leur vie, leur parcours professionnel.
au départ des personnes âgées, en quoi vous pensiez qu'elles auraient pu vous apporter des réponses et quelles questions aussi vous aviez à vous poser? Est-ce que pour vous c'est important la discussion que vous avez pu avoir après avec ces personnes âgées? Est-ce qu'elles vous ont apporté des informations ou aussi une façon de voir la vie?
Oui, avec ce qu'elles ont vécu, par où elles sont passées, donc je pense qu'ils nous ont apporté quand même quelque chose pour voir la vie.
Est-ce que vous avez été étonné de voir ces personnes? Est-ce qu'elles vous ont surprise? Peut-être on peut demander à Jordan d'ailleurs, qui va s'approcher tout doucement du micro et qui va dire bonjour aussi. Jordan, bonjour.
Bonjour.
Donc effectivement, ces personnes, on les a trouvées, parce que j'étais avec vous, très en forme, non?
Oui, oui, puis le contact avec eux était très facile. Et moi, j'ai apprécié l'échange avec ces personnes. Ils nous ont mis à l'aise et ils n'avaient pas de préjugés sur les jeunes.
Et elles vous attendaient?
Oui.
Pour elles aussi, c'était un événement?
Oui, oui, tout à fait.
On l'a bien ressenti, elles vous ont posé des questions, comme vous, vous aviez préparé aussi au départ ces questions. Hein, on y est allé plusieurs fois, en fait. Et voilà, c'est tout ce qu'on va entendre dans quelques instants sur Radio Campus 106 FM. À tout de suite, on se retrouve après une quinzaine de minutes de ce reportage qui a été réalisé donc la semaine dernière. Hein, il s'est terminé, donc c'est très récent. Voilà, Campus 106 FM. Donc nous allons nous rendre à la résidence d'automne de Lille. Donc c'est une EHPAD que va nous présenter Hayat. Bonjour Hayat.
Bonjour.
Alors cette résidence, quand on arrive, c'est comment?
Alors la résidence d'automne se situe à Lille-Loisem. On s'est rendu 4 fois pour échanger avec les résidents et surtout les résidentes. Et on a fait les interviews et ils nous ont très bien accueillis.
Quel âge ont ces personnes à peu près à avoir comme ça?
60 à 80 ans.
Même un peu plus parfois.
Même plus, ouais. Mmh.
Et donc, on avait préparé des questions, hein, bien sûr. Oui. On n'est pas allé les mains dans les poches.
Non, on a préparé les questions et ils nous ont répondu. Ils étaient contents qu'on était là-bas.
Donc on va vous écouter, on va les écouter et après on en reparle ensemble, d'accord?
D'accord.
Merci Hayat. Le CORIF et l'école de la deuxième chance de Lille présentent Genre de métier, métier de genre, paroles croisées. Une émission de René Lavergne avec la participation des stagiaires de l'école de la deuxième chance. Anissa, Manon, Alexandre, Leïla, Ingrid, Zian, Hayat, Jordan et Mélanie, et des résidents de la résidence d'automne de Lille.
Comment ils ont trouvé leur emploi?
Moi, j'ai trouvé du boulot parce que, écoutez bien, je m'étais lancé dans la couture. Et une fois que j'étais parti faire une robe à la femme d'un brasseur, et puis il est arrivé, il dit « Oh ben Annette, il dit, tu sais, il y a une place aux contributions de libre, si tu veux, elle est pour toi. » Alors je dis « Ben, moi je suis rentré chez moi, alors je dis à ma mère, forcément c'est intéressant comme paye, et c'était la guerre, c'était dur, on n'était que deux. Hein. » Alors, elle m'a fait la prendre tout de suite. J'ai pris la place aux contributions tout de suite. Alors, mon boulot, c'était des calculs toute la journée. Fallait aimer les calculs. C'était un brasseur que nous connaissions bien qui est venu me proposer cette place. Il faut avoir des relations. Hein. Autrement, il n'y a rien de cuit.
Mais est-ce qu'ils ont galéré comme nous pour trouver comme nous?
Ben, je pense que c'était assez fait difficile quand même. Il y avait eu l'avant-guerre, il y a la guerre, et après, ben, ça a été très difficile. Mais les jeunes, même les jeunes, je pense qu'ils ont difficile à trouver. Il faudrait que ça change.
Ça dépend du nombre de diplômes.
C'est ce que j'ai eu. Moi, j'ai eu des diplômes parce que j'étais en classe longtemps. J'ai fait mes études, j'ai eu les diplômes et j'ai été nommée institutrice. Moi, j'avais mes élèves après à faire travailler. Ben, ils avaient leur travail à faire pour tous les jours, hein, à prendre leurs leçons. Hein, et puis, si je leur donnais un petit exercice à faire, ils devaient me le donner le lendemain fait. Il y a des parents qui signaient même. Ils marquaient en bas, hein, nous avons signé le travail de tel enfant. C'est ce que je leur disais. Hein, si vous travaillez bien, ben vous ferez comme votre papa, vous pourrez avoir un travail et puis vous serez payé.
Oui, mais comme là maintenant, il y a des gens qui ont un bac plus 5 et ils ne trouvent pas de travail.
Ça doit arriver que certaines personnes ne trouvent pas de travail. Hein, il faut encore trouver... Là, je ne saurais pas vous dire comment trouver un travail. Je pense que dans le temps, ben, on trouvait plus facilement un travail pas compliqué, mais on était quand même payé un petit peu. Maintenant, je ne sais pas si tout le monde arrive à trouver un travail. Parce qu'on voit encore beaucoup de personnes qui se promènent et puis qui ne savent pas quoi faire. Hein, c'est peut-être ça aussi. Ben, je souhaite à leurs parents de leur conseiller de s'y mettre au travail. Parce qu'il faut encore que les parents poussent un petit peu. Hein, parce qu'il y a peut-être des jeunes qui cherchent à traîner sur les routes et tout ça. Mais il faut que les parents s'en occupent. Ils ont leurs enfants, ils peuvent encore les aider un petit peu.
Les enfants, ils acceptent.
L'autorité des parents de maintenant, c'est plus pareil qu'avant. C'est plus la même autorité.
La génération de maintenant n'est pas comme avant. Je sais pas comment vous dire, mais c'est... les parents, ouais, ils sont moins stricts et tout qu'avant, en fait.
On marche dessus après.
Ça dépend des familles. Moi, je sais bien, j'ai toujours eu mes enfants en main. Ils n'ont jamais répondu malhonnête comme maintenant. Ils sont éduqués par leurs parents déjà. Ils reçoivent l'éducation. Ils donnent ce qu'ils ont reçu. C'est un héritage.
Ouais, mais c'est pas pareil. Maintenant, les papas, ils font des bébés et après, ils te laissent comme ça. Ça fait qu'après, t'es obligé de te débrouiller tout seul avec ton enfant.
Un papa qui fait un bébé à une femme, il assume pas, il s'en va en fait. Il laisse la femme tout seul.
Ce sont des cas qui ne devraient pas arriver. Voilà. C'était très rare de notre temps. Qu'un père abandonne...
C'était peut-être tabou, c'était caché. Peut-être aussi.
Je travaille à la suite de la mémoire que mon père avait fait à la CPAM du Roubaix. Et là, je me suis occupée des peines de maladie, des prises en charge pour les mères de famille. J'étais au deuxième étage. J'ai vraiment travaillé dur pour gagner ma croûte. Et quand je travaillais, je gagnais 6 000 francs par mois du fait que j'étais bien payée quand même. Et que le fait d'être bien payé, ça engendre des obligations.
Il faut travailler, c'est ça qu'il y a d'abord. Hein. Il faut faire son travail journalier et puis le rendre à celui qui est notre supérieur. Voilà ce qui est l'essentiel.
Hein. Est-ce qu'il y avait des différences entre par rapport aux hommes et aux femmes dans le milieu du travail?
Moi, en 1944, je suis rentrée à la SNCF. Les femmes avaient 5% de moins que les hommes. Au même grade, au même travail, mais les femmes avaient moins. 5%.
À l'éducation nationale, il n'y a pas de différence. On vient avec des diplômes et ils vous respectent.
Il y a un peu un défaut dans l'enseignement actuel, c'est que vous allez prendre le français, les maths, la physique, la chimie, enfin le calcul. Mais vous pouvez très bien, sur le fonctionnement d'une compagnie d'assurance, par exemple, ou même d'une banque, faire des études supérieures sans jamais en avoir entendu parler. Je prends un exemple, vous faites des études d'anglais, ben vous arrivez avec un bac plus 3 ou un bac plus 5, et vous n'avez jamais entendu une seule fois parler de la façon dont on vit dans notre société. Donc vous débarquez sur le marché du travail, mais sans savoir où il faut s'adresser et quelles sont les obligations qui pèsent sur nos épaules.
C'était des horaires de 9h à 12h, de 14h à 18h. Et je travaillais le samedi toute la journée. Tous les jours de Condé, c'était au gré de l'employeur. Mon père a travaillé plus. Il faisait de l'assurance à côté de son travail normal, pour dire de gagner un petit peu d'argent. Moi, je ne me rendais pas compte parce que j'étais gamine. Enfin, c'est que ma mère, elle me disait, tu sais, je ne peux pas t'acheter ça parce que c'est trop cher. La guerre, ça n'a rien arrangé. Ça a plutôt détérioré le climat.
À propos de la montée du fascisme en Allemagne, donc des nazis, mais la cause, c'est qu'après la guerre de 14-18, on a occupé une partie importante de l'Allemagne, c'est-à-dire la Sarre, et on a fait payer aux Allemands des dommages de guerre tellement importants qu'ils ne pouvaient plus faire face, ils ne pouvaient plus s'occuper d'eux-mêmes. Donc ça a occasionné une rancœur, et en plus une humiliation. On les a traités comme des bêtes. Et donc cette humiliation a fait qu'il y a eu la remontée du nazisme en 1933.
Est-ce que vos maris ont fait la guerre ?
Mon mari a fait la guerre en face de la ligne Maginot. Il était juste devant et il suit les tirs allemands. Et il y avait les Français, les Français ou les Belges. Et d'autre côté, il y avait les Allemands. Et ça bardait. Ouais. C'était pas marrant tous les jours. Et on nous canardait, et puis les Anglais nous canardaient aussi.
Quelles ont été les répercussions de la guerre sur votre vie de famille ?
Ma vie de famille, j'habitais Boulogne-sur-Mer, mais quand la guerre s'est produite, on a été obligé de partir de là et de s'en aller vivre carrément dans le sud de la France pour être un peu à l'abri de toutes les choses qui se produisaient à la côte et qui étaient très, très tristes et puis très dangereuses. Alors moi, la mère est partie avec ses enfants et mon père est resté là-bas où il était pour pouvoir gagner sa vie pour la famille.
Y a-t-il eu un changement après cela ?
On a recommencé à reprendre tout ce qu'on n'avait pas eu pour continuer à faire les travaux d'école.
Et moi, je suis issu aussi de mes grands-parents qui ont connu la guerre. Comment mon grand-père paternel et tout, il avait fait la Seconde Guerre mondiale. Et après, mon arrière-grand-père, bah, lui, il n'est pas revenu de la première, parce qu'il avait eu la première, il l'a fait, mais il n'est pas revenu. Mon grand-père, c'était un héros de guerre, parce que j'ai tous les articles, quand il est passé dans le journal, quand il avait fait, il a nettoyé la forêt de Nieppe et tout.
Oh là là, je vais raconter sur la guerre. La guerre qui est finie, la dernière. Là. Ben, je trouve que c'était pas plus joli que les autres. C'était égalité. Ce serait beau que tous les pays du monde pouvaient se rencontrer sans se disputer. Mais j'ai du mal à y croire.
Les gens qui disent voudraient une bonne guerre. D'abord, une guerre n'est jamais bonne.
C'est vrai, quand on est, quand tous les voisins sont d'accord, tous ensemble, qu'on fait la fête ensemble, ben c'est bien plus intéressant que de tout le temps se chamailler. C'est vrai. C'est pour ça que moi, je dis tout le temps, vaut mieux la paix que la guerre. On a des chefs qui s'occupent de ça à notre place. C'est les politiques, alors il y a peut-être des hommes et des femmes, ça je ne sais pas. Hein, mais enfin, c'est pas nous.
Depuis que les femmes ont le droit de vote, il n'y a plus de guerre.
Quelle époque vous avez aimée ?
L'adolescence, parce que j'avais des parents extrêmement sympathiques. Et puis après, ça a craqué, puisque mon père est décédé. Et tout a changé, et ma famille venait de l'Est, des Vosges. Alors, on était très bien accueillis. Et quand on allait dans les Vosges, souvent ils disaient « Oh, vous êtes du Nord ?» Bah oui, quand même. Et combien de fois ma mère leur a dit « Mais allez dans le Nord et vous verrez comme les gens sont gentils. »
Alors, est-ce que la loi était la même pour les femmes avant ?
Ah non, pas du tout. Ben non. C'était beaucoup plus exigeant avec les femmes que maintenant. Il y a un peu plus de liberté et de compréhension.
À quel âge était la majorité ?
Quand on avait 21 ans. Alors là, on a eu le droit de vote. Enfin, moi, c'est le souvenir qui m'en reste. Ben, ça nous a déjà rendu égales des hommes. C'était quand même... inattendu, quoi. Mais je ne sais pas si on l'a fait pour nous remercier de quoi que ce soit. C'est la politique qui a voulu que ça soit comme ça. Ben, on voulait être majeur, enfin, être majeur, et on voulait avoir le droit de vote. On y tenait. Ah ben, mon père suivait la politique et j'ai été à des réunions politiques avec mon père. Mon père avait fait la guerre de 14, alors il espérait bien changer beaucoup de choses.
J'ai un copain à moi qui est fanatique du football. Il y a un paillet de champion. La question, est-ce qu'il joue au football, lui ?
J'arrêtais. Jouer, mais j'arrêtais.
Mais c'est qu'il joue au football pour le LOS ?
Non, pas pour le LOS.
Pas pour le LOS ?
Pour Paris aussi. Je suis parisien comme Alexandre, en fait.
Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de... Disons qu'il est pour Saint-Germain.
Bah, c'est un grand club, et pour moi c'est le meilleur club en France.
Ah, c'est un des meilleurs, c'est pas tout à fait tort. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le football et j'ai même une copine. Elle joue au football aussi à ses heures perdues. Et il y en a beaucoup qui aiment bien le football et les hommes, c'est important pour eux de se défouler sur un terrain. Ils y croient pas pour la caisse. Avec Madame d'Enfer. On a été voir le LOS Paris Saint-Germain.
Voilà, nous sommes de retour sur Terre avec Mélanie. Mélanie ?
Oui.
Premières impressions ?
Je trouve que c'était un super beau projet. Et franchement, je remercie beaucoup les personnes de la maison de retraite, donc de l'EHPAD, qui nous ont bien écoutés, bien répondu et superbement bien répondu à nos questions et nos attentes.
Voilà, donc, la résidence d'automne à Lille.
Voilà, c'est ça. Mm. Donc un grand merci à eux et voilà, ça nous a apporté beaucoup de choses.
On va donner la parole à des personnes qu'on n'a pas encore beaucoup présentées. Et tout d'abord, Soura, qui est formatrice à l'école de la deuxième chance. Bonjour Soura.
Bonjour René.
Donc voilà, cette expérience très riche pour nous, je pense.
Oui, très riche parce que les stagiaires étaient contents déjà d'y aller. Ils étaient angoissés à l'idée de prendre la parole au début quand on leur a parlé de cette expérience radiophonique. Mais ils se sont pas dégonflés pour autant. Ils sont quand même venus. Ils ont eu le courage de prendre la parole dans les micros, de se présenter aux personnes, aux résidents de la maison de retraite. Et ils ont mené le travail jusqu'au bout. Hein. Ils ont persévéré et puis c'est un beau travail et ça leur a donné confiance en eux.
Voilà,
et
puis ils ont progressé depuis les premières questions jusqu'à aujourd'hui. À
ils ont progressé dans la mesure où il y a des stagiaires qui ne voulaient absolument pas prendre la parole et qui ont fini quand même par dire une ou deux phrases et qui sont vraiment fiers d'eux. Et aujourd'hui, nous aussi, on est fiers d'eux parce qu'on voit le progrès. C'est là qu'on voit le progrès, justement.
Et la dernière phase, c'est en direct aujourd'hui avec eux, hein, donc ils ont assumé.
Et ils ont assumé, et ils ont assuré, et ils sont là jusqu'au bout, et ils sont là jusqu'à la fin de l'émission.
Voilà, merci donc à Soura, qui est formatrice à l'école de la deuxième chance. Alia est chargée de projet au CORIF, elle est formatrice également.
Bonjour. Oui, bonjour René, bonjour.
Alors donc, pourquoi le CORIF s'est intéressé à ce projet donc d'immersion de jeunes dans une maison où il y a des personnes âgées ?
Bon, déjà ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble avec l'école de la deuxième chance sur les pratiques langagières, donc des projets qui sont financés par l'accès. Et là cette année, on avait envie de se faire rencontrer les générations en fait. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir croiser les regards entre des jeunes qui sont en train de se construire un avenir, qui sont en train de se construire un projet, et des personnes qui sont plutôt en fin de vie et qui ont déjà vécu en tout cas leur vie professionnelle. Voilà, donc on avait envie de les faire s'exprimer là-dessus et de les faire se rencontrer. Et c'était un pari un peu osé. Et c'est vrai que moi je voulais pas forcément dire, mais j'ai eu certains doutes parfois. Et finalement c'est un pari qui est réussi. Et donc je voulais en féliciter tout le monde, hein, les jeunes qui sont ici, mais les personnes âgées aussi qu'on a rencontrées.
Ces personnes ne sont pas à court d'idées, elles ont beaucoup de conseils à donner et beaucoup de réflexions et d'intelligence, c'est ce qu'on a remarqué.
Oui, ça c'était assez étonnant finalement les personnes, elles avaient envie de nous raconter, de se raconter et aussi de donner leurs conseils à ces jeunes qui débutent leur vie professionnelle, leur carrière, leur vie professionnelle. Et l'idée c'était aussi d'aller vérifier un certain nombre de vérités ou en tout cas d'idées qu'on avait parce que bon ça se sent pas forcément dans l'émission dans le reportage mais il y a beaucoup de temps de préparation et on est allé vérifier sur le terrain certaines idées qu'on avait notamment sur le travail des femmes par exemple moi je me souviens d'une séance où quelqu'un a dit avant les femmes elles travaillaient pas. Voilà. Et on a bien vu hein, la maison de retraite que la plupart des femmes qui étaient là, elles avaient travaillé et en tout cas elles avaient une place importante dans la société, à l'époque où elles travaillaient. Donc voilà.
Voilà. Voilà, alors avant de nous quitter, on va faire un dernier tour de table, j'allais dire un tour d'horizon, avec donc, toutes les personnes qui ont contribué à ce projet.
Donc, un grand merci donc à Soura, à Alia, au Corif, à la maison de retraite, à Radio Campus aussi d'avoir fait partager un petit peu notre expérience. Et voilà, moi je trouve que c'est un beau projet. Donc voilà, je laisse la parole à Jordan.
Moi je voulais remercier tout le monde.
Je voulais remercier tout le monde. Les référents, l'école de la deuxième chance.
Donc moi je voulais dire un grand merci à tout le monde et j'ai adoré faire ce projet et je suis fière de nous.
Moi aussi je remercie et puis aussi aux résidents de l'automne qui nous ont bien accueillis. Et puis voilà.
Ouais, merci à tous, merci René, merci pour la qualité de ton travail, pour les heures de dérochage, pour l'investissement. Merci à l'école de la deuxième chance. Je pense que on a un partenariat depuis plus trois ou quatre ans maintenant et quatre ans. On me fait signe que c'est quatre et qui est assez fructueux. Félicitations à vous les jeunes, y compris ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais qui sont certainement en train de nous écouter, que nous écouterons sur la site internet simplement. Merci à Soura aussi, l'encadrante de l'école de la deuxième chance.
C'est pareil, je souhaite remercier René parce que pour un travail, pour un montage super, et pour je souhaite aussi remercier surtout les stagiaires pour leur implication. C'est beaucoup de travail, il faut insister là-dessus, hein. C'est un travail sur eux, sur le sujet, sur le contenu, sur la forme, mais surtout sur eux-mêmes parce qu'ils en ont beaucoup appris sur eux-mêmes et sur l'histoire. Ils ont appris qu'il n'y avait pas que eux qui étaient dans cette difficulté de la recherche d'emploi finalement, que ça a toujours duré, que c'est quand même 30 heures de travail ce projet du Corif, donc ça représente un énorme travail. Et je voulais remercier aussi et saluer leur capacité à s'adapter à une nouvelle situation parce que tout n'a pas été prévu. Ils ont préparé un petit peu le travail, mais ils se sont adaptés. On leur a posé des questions en direct quand même et ils ont réussi à s'adapter sans se dégonfler. Voilà, merci à tous. Merci à Alia pour son soutien. Merci à René et merci à l'école.
Voilà, eh bien, merci à toutes et à tous. Et moi aussi, j'ai passé un moment très intéressant, très important même, tant par la qualité des stagiaires, mais aussi des personnes que nous avons rencontrées ensemble et de ce bel échange. Notamment, je me souviens de la dernière séquence qu'on a enregistrée là-bas à la maison de retraite, où il y avait une grande écoute d'un côté comme de l'autre. Merci à toutes et à tous. À bientôt.